le 7-9.
Soyez les bienvenus sur France Inter, nous sommes le mercredi 6 octobre. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, vendre le patrimoine de l'Église pour indemniser les victimes des prêtres pédophiles. L'une des propositions du rapport de la Commission sur les abus sexuels dans l'Église publié hier. L'Église sous le choc de la vérité, 216 000 mineurs abusés depuis les années 50. On en parlera à 8h20 avec le président de cette commission, Jean-Marc Sauvé, et avec Antoine Garabon, magistrat qui en était membre. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et vous attend. Les autres titres, Anaïs.
La contre-attaque de Mark Zuckerberg, Facebook visé par les élus américains après les accusations d'une ex-salariée. Les victimes du Bataclan commencent à témoigner aujourd'hui au procès des attentats. Et James Bond sur nos écrans avec des femmes qui ne font plus les potiches.
Invité rendez-vous de France Inter ce matin à 7h15. Quel bonheur, quel privilège. Le Zoom avec Patrick Modiano pour la sortie de son 30e roman. À 7h50, Léa Salamé, votre invité.
Il est l'un des peintres vivants les plus célèbres du monde. Il présente une nouvelle exposition événement au musée de l'Orangerie, A Year in Normandy. David Hockney sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure.
France Inter.
Et maintenant, comment réagir après l'uppercute de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église? 216 000 victimes toujours vivantes, abusées alors qu'elles étaient enfants depuis les années 50. Plus de 300 000 si on inclut celles qui ont subi des agressions de la part de laïcs. Première étape, la reconnaissance de la responsabilité systémique de l'Église, mais aussi la réparation financière. Le rapport préconise une indemnisation individualisée avec un arbitrage confié à un organe indépendant. Les sommes risquent d'être astronomiques. La commission suggère à l'Église de vendre son patrimoine, ce qui fait déjà débat, Rémi Brancato.
Jusqu'ici, l'Église a promis des contributions financières, un terme qui a choqué les victimes. Le rapport Sauvé préconise bien des indemnisations individuelles, indispensables pour Alexandre Aizé, membre de la Parole Libérée, association lyonnaise de victimes du père Prénat.
Il va bien falloir trouver cet argent, quitte effectivement à avoir une partie du patrimoine de l'Église qui soit dédiée à ça. Je pense que c'est une nécessité et l'Église n'aura pas le choix.
Pour le moment, on ne sait pas combien de victimes demanderont réparation, souligne Ambroise Laurent, secrétaire général adjoint en charge des finances à la conférence des évêques. Pour lui, le patrimoine de l'Église qui doit être utilisé selon le rapport Sauvé n'est pas une solution.
Moi, je ne vois pas très bien comment on va vendre. Notre patrimoine, il est essentiellement cultuel. Je ne vois pas très bien qui va être intéressé par acheter des églises.
Pour la commission, l'Église ne doit pas faire appel aux dons des fidèles. Compliqué, souligne Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France, car la loi de 1905 empêche les cultes de financer autre chose que leur fonctionnement.
Les réserves que nous avons, aujourd'hui, elles servent très largement à garantir le paiement des salaires. La CIAS nous met dans une situation compliquée, juridiquement compliquée. Je ne sais pas si elle a complètement mesuré la difficulté juridique dans laquelle elle nous mettait. Nous verrons ce que nous pouvons faire.
L'Église ne vit que des dons des fidèles, environ 500 millions d'euros par an.
Et on y revient donc à 8h20 avec Jean-Marc Sauvé et Antoine Garapon et sur franceinter.fr. 5 infographies pour comprendre l'ampleur de ces abus. Autre institution, autre tangage de taille en ce moment, Facebook dans l'œil du cyclone. Les élus américains promettent d'agir pour réguler le géant californien après l'alerte lancée par une ancienne ingénieure, assurant devant le Congrès que l'entreprise a mis le profit avant les principes moraux. Vous êtes une héroïne du 21e siècle, lui a lancé le sénateur démocrate Ed Markey, sonnant la rébellion contre le géant de la tech.
Mark Zuckerberg, l'époque durant laquelle vous avez envahi notre vie privée, promu des contenus toxiques et utilisé des enfants et adolescents, est terminée. Le Congrès va agir. Nous n'allons plus autoriser votre compagnie à blesser nos enfants, nos familles et notre démocratie.
Alors, comment faire? Comment réguler Facebook? Sébastien Paour a suivi l'audition de cet ingénieur informatique.
Elle a passé à peine 2 ans chez Facebook et elle explique qu'elle a conscience que son ancien employeur peut ruiner sa vie. Mais Frances Haugen assure aussi qu'elle croit en des réseaux sociaux plus sûrs et plus responsables et qu'il est encore temps d'agir, à condition d'obliger le géant californien à le faire. En attendant, l'ingénieur informatique fait plusieurs fois la comparaison avec l'industrie du tabac. Facebook, Instagram sont aussi addictifs, dit-elle, que des cigarettes. Mais le groupe cherche toujours, selon elle, son profit plutôt que la sûreté de ses utilisateurs. Affirmation démentie quelques heures après par Mark Zuckerberg. Entreprise opaque où personne à l'extérieur ne sait ce qui se passe à l'intérieur, Facebook doit plus que d'autres être surveillé. L'ex-salarié demande aux élus du Congrès de prendre des mesures et elle se félicite de la panne de lundi. Pendant plusieurs heures, dit-elle, Facebook n'a pas pu rendre des jeunes filles mal dans leur peau. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Les États-Unis et leur débâcle en Afghanistan, la crise des sous-marins australiens, on aurait dû faire mieux au niveau de la communication, a dit hier soir sur France 2 le secrétaire d'État américain. En tout cas, voilà de quoi alimenter les discussions des Européens réunis en sommet en Slovénie pour tenter de trouver la place de l'Union face aux deux superpuissances que sont les États-Unis et la Chine. Nous y serons à 7h30.
Il est 7h06. Les premières victimes du Bataclan, Anaïs, attendues à la barre.
Au procès des attentats du 13 novembre 2015, plus de 200 victimes vont témoigner pendant les trois prochaines semaines. Edith, 43 ans, sera l'une des premières entendues aujourd'hui. Le 13 novembre, elle était venue au concert du Bataclan avec une amie, Charlotte Piré, l'a rencontrée.
Lorsque les trois terroristes font irruption dans le Bataclan, Edith n'est pas très loin de l'entrée.
Je vois quelqu'un avec une arme qui se redresse. On tombe les uns sur les autres, on tombe.
Elle parvient à se réfugier au balcon, trouve refuge derrière un fauteuil près d'un inconnu à l'impressionnante carrure.
Et celui que j'apprends à être plus tard, Mostefaï, monte au balcon à ce moment-là et pousse la porte. Et de dessous les sièges, il est à, je sais pas, 3 mètres. Il y a ses pieds qui sont là et il tire sur les gens qui sont encore planqués entre les fauteuils, dont nous. On attend que ça se passe.
Edith va rester 2 heures recroquevillée sous les sièges jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre.
Ils nous ont mis un fil indienne et ils nous ont dit on va descendre, ne regardez pas. D'abord on n'a pas le choix, il faut qu'on regarde parce que sinon on ne peut pas avancer. On marche sur les corps quoi. Et puis on voit ce qui se passe dans la fosse. Et c'est une vision mais inimaginable. Et c'est le volume de corps qui est spectaculaire. C'est des images que je n'enlèverai jamais de ma tête.
Edith n'a pas été blessée, mais elle a inscrit dans son corps cette soirée du 13 novembre un immense tatouage coloré sur son avant-bras gauche, la façade du Bataclan.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à suivre avec les envoyées spéciales de France Inter, Charlotte Piré et Sophie Parmentier. Moins de 16 000 personnes ont demandé un congé proche aidant depuis un an que le dispositif existe. C'est peu rapporté aux millions d'aidants potentiellement concernés. Cette journée leur est consacrée. Selon une étude ministérielle, 725 000 aidants doivent soutenir leurs parents âgés tout en ayant encore des enfants à charge. La route se dégageait devant lui depuis que les adhérents les Républicains avaient opté pour le Congrès pour désigner leur candidat à la présidentielle, mais voilà que Xavier Bertrand redoute désormais ce rendez-vous le 4 décembre, car malgré sa course en tête dans les sondages, ses adversaires ne lâchent rien. Les Républicains se réunissent ce soir pour étudier les conditions d'organisation de ce Congrès. Anne Souhaitemont.
Oui, ça devient compliqué. Dans l'entourage de Xavier Bertrand, les mines sont grises, alors qu'il pensait avoir suffisamment creusé l'écart pour convaincre Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin de se rallier avant le congrès du 4 décembre. Les soutiens du candidat ne peuvent que le constater, rien ne bouge. Maxime Minot, député de l'Oise.
J'ai l'impression qu'il est bloqué dans le sens où on a beau avoir 10 sondages, 100 sondages, ça suffit jamais. Aujourd'hui, j'en appelle entre l'ensemble des candidats à la primaire, en tout cas au congrès LR, de bien évidemment se mettre d'accord et d'avoir conscience qu'aujourd'hui, on peut avoir qu'un seul et unique candidat.
Problème, en face, la détermination est totale. Michel Barnier, c'est human bomb, il ne lâchera pas, rejoint un soutien de Xavier Bertrand. Même rengaine dans le camp Pécresse, Éric Pauget, député des Alpes-Maritimes.
Pourquoi se désister ? Il est hors de question qu'elle n'aille pas au bout de la démarche, parce que ça serait trahir ce qu'elle dit depuis des semaines. Et donc, on ne va pas maintenant à mi-chemin. Et à quel titre et au nom de quoi ne pas aller au bout de la démarche ?
Le piège du Congrès serait-il en train de se refermer sur Xavier Bertrand ? Michel Barnier pourrait-il créer la surprise ? On est mal barré, répond un bertrandiste qui fantasme un ticket avec Valérie Pécresse. En attendant, la guerre des tranchées continue et fait mal à la droite. Une lente agonie, diagnostique un député.
À gauche, Anne Hidalgo dans Libération ce matin propose une baisse de la taxe sur les carburants. On ne peut pas demander aux plus modestes de payer le prix fort de la transition écologique, dit la candidate socialiste à la présidentielle. Elle souhaite aussi un plan pour les transports en commun et les petites lignes ferroviaires. C'est justement aujourd'hui que le Premier ministre est attendu à Lille et à Tourcoing pour annoncer les 95 projets qui ont été retenus pour financer des transports collectifs en site propre. 900 millions d'euros débloqués par le gouvernement pour ces transports en commun des collectivités de province hors Île-de-France. Eux prennent souvent le bus, mais aussi quelquefois leur voiture. Les seniors qui ont parfois passé leur permis dans les années 60 ou 70, près de Valenciennes, à l'occasion de la semaine bleue dédiée aux personnes âgées, une dizaine de conducteurs aux tempes grisonnantes ont donc eu droit à une piqûre de rappel du code de la route, séance suivie par Raffaella Birivicente.
Avant de commencer le quiz, Giovanni Rocca, l'inspecteur du permis de conduire, tient à rassurer les conducteurs qui ont décroché leur carte rose quand il n'y avait encore pas de limitation de vitesse hors agglo et pas l'obligation de mettre une ceinture.
Enlevez-vous aussi des préjugés parce qu'on dit les personnes d'un certain âge, il ne faut plus les faire conduire, etc. Non, les personnes d'un certain âge ne sont pas plus accidentogènes que les 18-25 ans, où là c'est une véritable catastrophe.
L'inspecteur qui doit aussi souvent rassurer les seniors sur les ronds-points comme Reine-Marie.
Parce qu'on ne sait jamais si on veut passer. Il y en a toujours qui arrivent d'une vitesse, on a toujours peur, on a toujours des foufous.
Si je tourne à droite, je passe avant la moto. Réponse A.
Les aînés doivent répondre à une vingtaine de questions qui leur permet de rebondir sur quasiment toutes les problématiques du code de la route, avec quelques notions aussi clés de mécanique, comme les voyants rouges qui indiquent un danger. Reine-Marie n'a pas reconnu celui du liquide de refroidissement.
J'avais jamais vu ce voyant-là. Alors. Je ne savais même pas ce que c'était.
Dans les nouvelles voitures, ça, qu'il y a ce voyant-là.
Ça existait depuis toujours.
Autopartage, c'est pas le même que voiturage.
C'est l'occasion aussi pour les personnes âgées d'apprendre de nouveaux panneaux qui interrogent beaucoup Pierre, 84 ans, qui a passé son permis il y a 53 ans.
Ça nous manque, on ne sait pas. Il y a beaucoup de panneaux. Est-ce que c'est des panneaux qui indiquent un danger ?
C'est bien de faire une petite révision, même une grande révision, on en a besoin.
Voilà, reportage France Bleu Nord, Raffaella Birivicente. Allez, c'est nettement plus décoiffant après 2 ans d'attente. Personne n'ignore que le dernier James Bond sort aujourd'hui, le dernier Daniel Craig d'ailleurs. Après 15 ans dans le costume de 007, l'année prochaine, il faudra trouver une nouvelle incarnation, homme ou femme. Ce n'est pas encore tranché, mais Corinne Pellissier signe que les temps changent, les femmes ont le beau rôle dans ce dernier opus.
Même son matricule ne lui appartient plus. 5 ans après avoir raccroché les gants pour les beaux yeux de Madeleine Swann, James Bond coule aujourd'hui des jours tranquilles en Jamaïque, tandis que le MI6 a déjà réattribué son fameux 007 à l'agent Nomi, nouvelle recrue jouée par l'actrice britannique Lashana Lynch, au profil très charismatique. The world's moved on, Commander Bond. Terminé ici, les rôles de potiche, ce sont les femmes désormais qui mènent la danse en matière de drague ou d'action. Et signe que les temps changent, c'est la scénariste de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, connue pour ses engagements et son franc-parler, qui a été mise à contribution pour l'écriture du scénario. Sa plus grande réussite, le personnage de Paloma, joué par l'actrice cubano-espagnole Ana de Armas, héroïne du prochain biopic consacré à Marilyn Monroe. Son humour, sa malice et son aisance dans l'action en font l'un des personnages les plus intéressants de ce dernier épisode. On rêverait déjà presque de son retour, même si l'idée d'un James Bond au féminin ne semble pas tenir la corde aujourd'hui chez les producteurs de la saga.
Voilà, mourir peut attendre sur un millier d'écrans
pressé,
en France.
C'est vrai. Merci Anaïs Feuga. Le Zoom dans 3 minutes. Avec quel plaisir l'écrivain Patrick Modiano pour son nouveau roman qui sort demain en librairie.